une certaine pluralité à l'intérieur. Y compris dans ces églises, constituer une aile, des éléments libéraux. La différence d'Édimbourg 1910, c'est que ce mouvement de collaboration, communion, qui jusqu'alors avait été évangélique, est devenu maintenant beaucoup plus ecclésiastique, avec des dignitaires des grandes églises traditionnelles, et avec inclusion de libéraux aussi. Alors si cela s'est fait, je crois que ça a été démontré, en particulier par une thèse soutenue à Strasbourg par M. Hart Johnston, c'est que les dirigeants évangéliques qui ont organisé Édimbourg 1910, dans la décennie qui a précédé, dans les années 1904, 5, 6, etc., avaient commencé déjà à mettre de l'eau dans leur vin, avaient commencé à abandonner des positions évangéliques strictes. Ils restaient évangéliques, en gros, dans leur prédication. Mais ils n'étaient plus prêts à dire les choses de manière carrée, à tenir aux critères très, très fermes de l'infaillibilité biblique, de tous les points essentiels du credo. Ça s'est fait en douceur, subtilement, sans que beaucoup de gens s'en rendent compte, mais c'est ce qui a fait qu'ils ont dit, bon, maintenant il faut inviter plus largement. Et du coup, une réunion d'un type nouveau a eu lieu, que l'on considère comme la naissance du mouvement écuménique moderne. Et alors, dans la période qui a suivi, en gros, c'est l'entre-deux-guerres, qu'on peut appeler celle de l'enfance du mouvement écuménique moderne, alors on voit précisément cette pluralité de composantes se manifester. Le mouvement lancé à Édimbourg en 1910 grandit très fort. Ça marche. C'est une idée qui prend. Et il y a différents congrès qui ont lieu, etc. Mais il n'y a plus seulement l'élément évangélique. Et même certains éléments évangéliques vont sortir. Ça a été le cas, par exemple, de la mission à l'intérieur de la Chine, la mission qu'avait fondée Hudson Taylor. Je crois que c'est vers 1928 ou 29 qu'en Chine, elle sort de ce mouvement. Parce qu'il y a aussi les libéraux qui mettent l'accent sur le christianisme social, sur l'action politique et sociale pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Et il y a un grand leader de l'écuménisme qui donc se déploie à ce moment-là, qui est archevêque en Suède, mais libéral, et que l'on cite souvent, Nathan Söderblom. Et puis d'autre part, alors, il y a une part, du côté de ceux qui tiennent à la doctrine, beaucoup plus, une part grandissante prise par des évêques et des docteurs, des grandes églises qui ont gardé un élément catholicisant. Alors certains essayent de prendre des contacts avec le catholicisme. Et il y a des petits cénacles, y compris en France, le pasteur Marc Bugner, qui sera un des principaux leaders de ce mouvement écuménique, fréquente un tel cercle après la Deuxième Guerre mondiale. Mais la papauté met un frein et même un verrou à cela, en particulier par l'encyclique Mortalium Animos de 1928, refusant toute participation à ce mouvement écuménique. Ce qui contribue peut-être à rassurer certains des évangéliques qui y restent. Donc, ça c'est la phase qui suit la naissance, qui procède d'Édimbourg. On peut signaler aussi que ce qui a facilité les choses, c'est que bien qu'il y ait eu des libéraux, et des libéraux tout à fait nets dans le mouvement, l'influence dominante dans le monde théologique protestant, dans cette même période entre les deux guerres, a été un mouvement de réaction contre le libéralisme. Un mouvement qu'on a appelé néo-orthodoxe, avec comme figure de proue le théologien Karl Barth, B-A-R-T-H, et beaucoup d'évangéliques ont cru que Barth rejoignait le camp de la réforme qu'il citait sans cesse. En fait, ce n'était pas le cas, il y avait des écarts très sérieux, mais ça aussi, ça a facilité ce grand mouvement. Et il y a eu un véritable enthousiasme. Je crois qu'on peut dire qu'il y a eu des personnalités là habitées par le sentiment que Dieu faisait une œuvre vraiment très très grandiose, qu'enfin on allait dépasser tout ce qu'il y avait affaibli la chrétienté pendant tant de siècles, que c'était un miracle du Saint-Esprit. On se découvrait, alors qu'on s'était totalement ignoré, qu'on méfiait les uns des autres. Ça a été un climat extraordinaire chez plusieurs qui, sous l'influence de Karl Barth, redécouvraient la Bible. On a aussi parlé de renouveau biblique. Alors, ensuite de cette phase, qui a été un peu retardée, mais aussi peut-être confortée par la Deuxième Guerre mondiale, normalement, après cette enfance, le mouvement œcuménique aurait dû se doter de sa structure juridique. Parce que s'il est né en 1910, c'est comme mouvement, mais il n'y avait pas un conseil, etc. Il y avait plusieurs groupes, etc. Normalement, au début, il aurait dû, vers 1940 ou 41, se doter d'une structure. Mais la guerre a éclaté, et ça a retardé les choses. Mais en même temps, ce qui était déjà mis en place a fonctionné pendant la guerre, et de manière très utile. Mon père, qui était prisonnier en captivité, a reçu beaucoup de livres de théologie avec lesquels il a travaillé, j'en ai encore certains, par le service d'aide aux prisonniers, mis en place par l'organisme œcuménique. C'était pas encore le conseil œcuménique, mais qui fonctionnait déjà à partir de Genève. Oui. Et avec une réelle utilité. En France, la CIMAD s'est mise en place comme une aide aux personnes déplacées. Et dans cet esprit-là. Et ça contribuait à rapprocher encore des gens de confessions différentes qui ont œuvré au coude à coude. Et ça aboutit alors à ce qu'on peut appeler l'accès de ce mouvement œcuménique à la majorité légale. Vous voyez, je garde l'image de la croissance d'un individu. C'est Amsterdam, 1948. En 1948, le Conseil œcuménique des Églises est fondé lors d'un très grand congrès à Amsterdam. C'est l'aboutissement de tous ces contacts, de tous ces échanges, de toutes ces négociations, de tout ce travail en commun qui a eu lieu entre les deux guerres et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce Conseil œcuménique des Églises est porté par un grand enthousiasme. Et sa tonalité majeure est celle de cette néo-orthodoxie dont j'ai parlé. Karl Barth est l'un de ceux qui prononce un grand discours. Nous avons un climat vraiment de très grande espérance dans ce conseil œcuménique des Églises. Mais dans la chrétienté, aux deux ailes, il y a des réserves ou même de l'opposition. Les catholiques romains, d'une part, et aussi le plus gros bloc de l'orthodoxie orientale du côté russe, reste en dehors. Et Pie XII, le pape Pie XII, est très réservé, pour ne pas dire plus, à l'égard de ce mouvement œcuménique. Illustration de cette attitude, par exemple, ce qu'il advient à Yves Congar. Yves Congar est le premier théologien catholique à avoir élaboré une théologie de l'œcuménisme, vu du côté catholique, et plutôt favorablement, bien que de façon prudente. Il a écrit son livre « Chrétien divisé » dans la série « Unam Sanctam » en 1937. Il était professeur de théologie, encore relativement jeune, mais professeur de théologie à ce moment-là, privé de sa chaire, au grand séminaire des Dominicains du Sauchoir. Et puis, après, il a été prisonnier de guerre, mais après ça, après la guerre, l'a bloqué, et c'est vers 1950 que ça a été le pire. Pratiquement empêché de s'exprimer, parce que autour du pape, Pie XII, on ne voulait pas de cette orientation œcuménique, de cette ouverture vers l'œcuménisme. Donc, réticence très forte du côté romain. Lors de la deuxième assemblée du Conseil œcuménique des Églises, si je me rappelle bien, il devait y avoir des observateurs romains, et puis finalement, le pape a dit non, ils n'ont pas pu y aller. Donc, réserve de ce côté-là, et réserve du côté évangélique. Les évangéliques, qui gardaient le souvenir des luttes entre libéraux et fondamentalistes dans plusieurs des églises aux États-Unis, assez durement dans l'entre-deux-guerres, se sont réorganisés et ont commencé à se doter d'institutions de collaboration entre eux, mais face au mouvement nouveau du Conseil œcuménique des Églises, qu'ils jugeaient trop libéral. Enfin, nous viendrons problème à prendre en compte, surtout demain, mais ils sont restés en dehors, sauf ceux qui appartenaient aux grandes églises, qui étaient de toute façon en tant qu'église dans le conseil œcuménique. Je pense qu'on peut dire que la plupart des évangéliques sont restés dehors, et ils ont reconstitué une alliance évangélique. L'alliance évangélique, dans les décennies précédentes, était pratiquement tombée. On pensait qu'elle n'avait plus rien à faire, il y avait l'autre mouvement, mais elle a été reconstituée à peu près à la même époque, un peu plus tard, que le conseil œcuménique des églises. L'alliance évangélique universelle a été en quelque sorte refondée. Il y avait une association nouvelle pendant la guerre fondée aux États-Unis, et puis elle a fourni de l'aide, des fonds, et une alliance universelle a été créée. Et en France, une alliance évangélique française a été aussi recréée. Elle n'existait pratiquement plus, mais sous l'impulsion surtout de trois hommes, de M. Jules Marcel Nicole, de mon père et du pasteur Jean-Paul Benoît, qui en a été le secrétaire général, une alliance évangélique française s'est constituée. Donc vous voyez comment les choses se sont dessinées à ce moment-là. Le mouvement œcuménique a un très grand élan, avec des personnalités qui ont l'air d'hommes spirituels à la tête, mais les évangéliques, en général, restent en dehors. Et c'est à cette époque aussi que M. René Pache écrit un petit volume de critiques très, très nettes, très, très incisives, de ce mouvement œcuménique à ses débuts, début de majorité. Mais cela avec un œcuménisme évangélique se mettant en place avec l'Alliance évangélique universelle. Puis alors la maturité, après la majorité, la maturité, c'est l'Assemblée de la Nouvelle Delhi en 1961 qui marque, me semble-t-il, la maturité de ce mouvement œcuménique. À cette Assemblée, vraiment un jalon important, 1961, se joignent au Conseil œcuménique les orthodoxes russes. Il y avait eu quelques orthodoxes grecs, déjà, auparavant, mais les orthodoxes russes, grosse masse, se joignent. Et puis, en partie pour leur plaire, la base théologique du Conseil œcuménique des Églises est renforcée. Cette base théologique était très brève, elle était très, très bonne aussi, hein, mais très brève, dans la formulation de 1948. Le Conseil œcuménique des Églises est une union d'Églises qui reconnaissent Jésus-Christ, Dieu et Sauveur. Et en 61, on rajoute, selon les Écritures, une mention de l'Écriture, et à la gloire de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc on rajoute une mention de la Trinité, à laquelle les orthodoxes tenaient particulièrement. Donc, renforcement de la base, vraiment le Conseil œcuménique devient un mouvement encore plus important. Mais peu de temps après cet accroissement qui est aussi un alourdissement, alors un gauchissement sensible s'est produit. En particulier une conférence à Genève en 1966 d'Église et Société marque ce virage vers la politisation. Et de la génération marquée par Barthes, marquée quand même par des accents bibliques et un souci spirituel, on passe à une génération qui se soucie essentiellement d'action sociale et politique. Alors pas tous, hein, mais c'est une note qui devient dominante dans la deuxième partie des années 60 et au début des années 70, avec des choses qui scandalisent certains. Par exemple, une aide financière au mouvement de guérilla révolutionnaire dans certains pays. L'armée du salut quittera le Conseil œcuménique des Églises pour cette raison, à ce moment-là. Trop choqué par cette attitude dominante. Donc là, il y a un gauchissement très marqué qui s'opère. Mais en même temps, des deux autres côtés, que se passe-t-il? Quelle est l'évolution? Je pense qu'on peut dire que c'est d'abord le grand virage du côté du catholicisme, à l'égard de l'écuménisme. En tout cas, c'est un grand virage. Pie XII meurt, il est remplacé par Jean XXIII, et Jean XXIII convoque le concile, et au concile Vatican II, Congar est un des experts, qui exerce une influence très forte, qui sera l'un des rédacteurs de pas mal des textes. Ça, c'est un cas illustratif, particulièrement significatif. Congar, qui finira par être nommé cardinal l'an dernier, un peu de temps avant de mourir. Après avoir été barré, censuré, il est honoré, influent, et reçoit l'honneur suprême d'être cardinal. Donc, ça c'est une illustration du virage qui s'opère, et virage qui s'opère donc à l'égard de l'écuménisme, avec un décret sur l'écuménisme qui reste relativement prudent, mais qui est quand même assez ouvert, qui contraste avec l'attitude des papes précédents, qui s'appelle sur la restauration de l'unité, le décret sur l'écuménisme du Concile. Et dans les années qui suivent, vous avez alors, bien au-delà de ce que la lettre des textes conciliaires implique, vous avez une attitude d'ouverture, vous avez des évêques catholiques qui disent « moi je suis luthérien, mais j'en ai entendu, le fait d'être protestant vous donne une prime dans les contacts, il y a un accueil extraordinaire pendant au moins une dizaine, douzaine d'années, une attitude écuménique extrêmement ouverte, donc, dans un renversement tout à fait remarquable. Du côté des évangéliques, je pense qu'on peut dire qu'il y a deux développements dans cette même période, années 60-70. D'une part, il y a un assouplissement de leur position à l'égard du mouvement écuménique et aussi à l'égard du catholicisme. Vous avez une diversification, mais un certain nombre d'entre eux, et je pense une majorité, se montrent beaucoup plus prêts à la collaboration éventuelle que dans la période précédente. Cela, c'est une évolution indubitable qu'on observe dans les années 60 et 70. Et d'autre part, il y a une promotion de l'écuménisme évangélique qui avait été entamée avec la constitution de l'Alliance évangélique universelle et puis des alliances évangéliques locales dont j'ai parlé. Mais à partir des années 60, il y a le mouvement dit de Lausanne. En fait, ça ne commence même pas à Lausanne, qui est en 74. Ça commence avec le congrès de Berlin. Et puis ensuite il y a le congrès d'Amsterdam, puis le congrès de Lausanne, et puis il y aura un relais du congrès de Lausanne, le congrès de Lausanne 2 à Manille, nettement plus tard. Celui qui est derrière ce mouvement-là, qui double un peu celui de l'Alliance évangélique. Les relations ne sont pas toujours très claires, il y a des alliances, des interférences, mais aussi une distinction, c'est Billy Graham. Pour les évangéliques dans le monde, cette période est la période du ministère de Billy Graham, qui a une audience internationale, qui devient le seul évangélique connu de tous les médias, partout, qui représente en quelque sorte en personne la tendance évangélique. Et Billy Graham est celui qui patronne ces grands congrès et qui encourage le comité de Lausanne. Il n'en est pas membre d'emblée, mais il a été présent à certaines de nos séances, puisque j'en ai fait partie dans les premières années de ce comité de Lausanne. Donc je peux dire, Billy Graham était là aussi. Son beau-frère Leighton Ford a été le président pendant toute une période. Donc vous avez promotion de l'écuménisme évangélique, c'est-à-dire du rapprochement des chrétiens évangéliques, mais avec des mouvements qui restent divers. Vous avez l'Alliance évangélique et mouvement de Lausanne qui interfèrent, qui sont très proches mais qui restent un peu distincts, et puis vous avez alors un mouvement à droite qui s'appelle l'ICCC, qui considère que le mouvement d'Alliance évangélique et de Billy Graham est trop tiède ou fait des compromis, un mouvement isolationniste, très politisé aussi, mais cette fois dans l'antimarxisme. Alors il y aura de très graves histoires, son président qui a vraiment tous les pouvoirs sera finalement quand même destitué parce qu'il ne peut s'entendre avec personne, mais le mouvement existe encore. Je crois qu'il a perdu de l'influence, mais son existence est encore significative. Mais là, j'anticipe un petit peu sur la dernière phase, qui est la nôtre, celle qui correspond à ces dernières années, à notre actualité. Pour garder mon image de la personne qui suit le profil d'une vie humaine, après la maturité, est-ce que c'est le retour d'âge ? L'écuménisme du Conseil écuménique des Églises est considéré par beaucoup comme en panne, actuellement. À coup sûr, il traverse une période difficile, l'élan semble perdu, l'enthousiasme des débuts n'est plus là. Du point de vue budgétaire même, il est en grande difficulté actuellement. J'ai lu là dans un journal tout récemment que de 92 à 98, il doit à peu près comprimer son budget de moitié. Vous vous rendez compte ce que ça représente ? Passer de 118 millions de francs suisses, je crois, à une soixantaine. c'est dire les difficultés. Ils doivent licencier, ils doivent... parce que les églises ne peuvent plus financer et ne veulent plus, il n'y a plus la dynamique. C'est assez clair. La politisation est moindre. La politisation a surtout pour forme la promotion de ce qui est politiquement correct, au sens des États-Unis, les valeurs des droits de l'homme, les valeurs égalitaires. Mais c'est beaucoup moins, parce que le marxisme a perdu beaucoup de son emprise, beaucoup moins révolutionnaire que ce n'était. Mais il y a deux mouvements qui sont très, très forts, qui s'entendent très distinctement. C'est le mouvement féministe. Le mouvement féministe est assez extrême. Il y a pas mal de représentants. Et également le mouvement de dialogue interreligieux, avec l'idée que toutes les religions peuvent collaborer et ont toutes des voies de salut, que tout prosélytisme doit être interdit à l'égard des fidèles, des dévots d'autres religions, islam, bouddhisme, etc. C'est sans doute par là que les écuménistes actuels choquent le plus les évangéliques. Alors je dis les écuménistes, attention, il y a diversité. Je pense qu'on peut dire que c'est une note qui s'entend très fort, mais ce n'est pas l'option de tous. Vous avez des gens relativement conservateurs et encore des évangéliques qui peuvent se trouver dedans. Mais c'est ce qui se remarque dans l'évolution du Conseil écuménique. Il y a aussi une ouverture aux évangéliques, parce que c'est une ouverture tous azimuts, sous l'idée d'une tolérance comme valeur suprême. Alors, oui au bouddhisme, oui à la danse d'une théologienne coréenne qui invoque les esprits de la terre lors de l'assemblée de Canberra. Oui, donc aux vieux fonds païens récupérés, mais oui aussi aux évangéliques. On les invite davantage à venir, on leur donne davantage la parole. Ça, c'est l'évolution de cet écuménisme qui est un peu en panne, qui cherche sa voie, qui s'ouvre un peu n'importe où. Du côté catholique, je pense qu'on peut dire que le pape Jean-Paul II mène d'une manière honnête, étant donné son point de vue, sa position, une politique très subtile, très habile et subtile. Il s'agit pour lui de faire le maximum dans le sens qui plaît pour avoir du crédit en opinion publique et ainsi de l'influence, parce que le pape sait très bien que ces décisions ne seront pas observées, même s'il en a théoriquement tous les droits, s'il n'a pas du poids d'opinion publique. Alors, sa politique consiste, me semble-t-il, à aller dans le sens qui plaît, là où il le peut en conscience. Mais afin de faire passer quand même une politique de reprise en main, de retour à une certaine discipline, un peu plus d'unité, dans un catholicisme qui est devenu vraiment extrêmement éclaté, et disons faire passer un message relativement conservateur. Pas très conservateur, mais relativement conservateur. Là, la conservation s'appliquant bien sûr à la tradition catholique, au dépôt de la tradition catholique. Je crois qu'il joue comme ça. Alors pour l'écuménisme par exemple, il est me semble-t-il, très, très, très honnête, hein, en particulier dans son dernier document, pour qu'il soit un. Il multiplie les gestes autant qu'il peut pour d'humilité à l'égard des orthodoxes orientaux, à l'égard des protestants eux-mêmes. Il a été, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Luther, je crois, ou de la mort, je ne sais plus, visiter respectueusement une église luthérienne à Rome. C'est quand même une démarche impressionnante. Dans le registre du geste symbolique, parce qu'il le peut, puis que ça touche les médias, il va très très loin. Je ne pense pas qu'il ait eu cette maladresse, parce qu'il est habile. Alors là, vous voyez, ce serait à vérifier alors. En tout cas, donc, il a fait ça, mais d'autre part, il reste fidèle aux documents du Concile, à la conviction que c'est dans l'Église romaine que réside la plénitude de tous les dons du salut. cela, en quelque sorte, il ne peut pas l'abandonner, et il le redit très, très fermement. Et il maintient avec ses fidèles autour de lui, en particulier le cardinal Ratzinger, une grande fermeté sur des points où il y a la pression œcuménique est pourtant forte. Il y a sa dévotion mariale personnelle d'une part, il y a le célibat des prêtres en caractère sacerdotal très distinct de celui du peuple des fidèles, que le célibat tente à bien représenter. Il y a, pour des questions proprement dogmatiques, sur l'Eucharistie en particulier, mais là déjà Paul VI était intervenu dans ce sens, il y a les questions de morale, l'attitude à l'égard de la contraception et de ses diverses méthodes. Vous avez donc un message qui reste essentiellement conservateur, et il croit à la naissance virginale de Jésus-Christ, à sa résurrection corporelle, ce que ne font pas tous les théologiens catholiques, de très loin aujourd'hui. Il croit, c'est cela ce que j'appelle un message non pas très conservateur, mais assez conservateur. Alors il le fait passer avec des gestes symboliques qui, eux, peuvent paraître très novateurs. Et aussi par rapport aux religions. La prière d'Assise, où il joue subtilement à Assise avec les représentants des diverses religions. Et moi je dis, malheureusement, de mon point de vue, il y a eu aussi un baptiste. À Assise, ils n'ont pas prié ensemble. Ils ont prié côte à côte. Chacun priait à sa manière, et en quelque sorte séparément, mais ils étaient côte à côte pour prier. Vous voyez la subtilité de ces réunions. Le geste symbolique est là, tout le monde est ensemble, mais en fait, c'est pas vraiment ensemble. Et on ne... là, je ne sais pas. J'ai vu la mention de la présence d'un baptiste. Je ne sais pas si j'aurai dans mes documents une autre indication, mais je crois que je n'ai pas eu de nom. Mais je pense que c'est un baptiste américain de l'American Baptist Convention, qui est membre du Conseil œcuménique, qui appartient à ces sphères œcuméniques, sans doute un baptiste assez libéral. Bien que, je le signale au passage, les baptistes globalement dans le monde soient en majorité évangéliques et que les deux derniers présidents de l'Alliance baptiste mondiale soient des évangéliques. Le précédent, les deux en fait, les ai rencontrés. Et le précédent, je l'avais rencontré dans une consultation qu'avait organisée Billy Graham à Amsterdam, à laquelle j'avais pris part, où il avait pris part aussi. Et je l'ai revu cet été dans la rencontre à laquelle j'ai participé au Canada. C'est Nathanael Vose, un Australien, baptiste australien, vraiment tout à fait notre ligne. Hein. Il est le doyen d'une école de théologie qui ressemble beaucoup à Vaux-sur-Seine par les traits caractéristiques. Il a été le président et maintenant il vient d'être remplacé par un Brésilien qui a été membre du comité de Lausanne brièvement, un grand pasteur d'une énorme église baptiste au Brésil, prédicateur à la radio, évangéliste. Donc les baptistes, il y a des libéraux parmi les baptistes, mais en majorité, il semble qu'il soit évangélique pour qu'à la tête de l'Alliance baptiste mondiale, il y ait des présidents évangéliques. Juste, ça c'est un à côté. Donc, évolution, j'essaye d'interpréter l'attitude de Jean-Paul II. Je crois qu'on peut dire aussi que Jean-Paul II est à la fois très sincèrement et profondément biblique. Il met plus de Bible, et une Bible méditée, travaillée, dans ses écrits que pratiquement tous les papes avant lui. Et sincèrement marial. Très, très fortement dévot de Marie. Vous savez que sa devise, c'est tout à toi Marie. Totus tuus, tiens tout, tout à toi. Et donc, il est les deux à la fois. Il faut reconnaître, me semble-t-il, loyalement, ces deux composantes. Il promeut la lecture de la Bible, la diffusion biblique, il la soutient, mais il est aussi très dévot de la Sainte Vierge. Voilà comment je caractériserais l'évolution. Alors, je pense que je peux dire encore à ce propos, hein, je dépasse un peu le temps que je prévoyais, mais je peux dire aussi à ce propos que beaucoup va dépendre du prochain pape. Que je fréquente assez de de milieux divers pour savoir qu'il y a nombre de clercs catholiques qui attendent avec une certaine impatience que ce soit un prochain pape, qui supportent mal cette reprise en main, cet effort pour aller vers des positions plus conservatrices, qui ne correspond pas à leur conviction. Alors ils espèrent que le prochain pape sera beaucoup plus libéral. Du côté évangélique, alors, je pense qu'on peut dire, j'essaye aussi de prendre un peu de recul pour me rendre compte de ce qui se passe dans les dernières années, que les évangélistes continuent à avoir beaucoup de mal à coopérer entre eux, qu'ils ne font pas grand progrès, que ces dernières années, il n'y a pas eu grand progrès dans leur collaboration. Mais ce qui me semble le plus frappant, c'est que les lignes du front, le front du bon combat, se déplacent. Qu'il y a des bouleversements dans la géographie du combat spirituel. Et ce qui ne se passe guère en France, mais peut-être quand même aurait-on des indices allant légèrement dans ce sens, mais ce qui se passe ailleurs, c'est que parfois les évangéliques s'allient aux catholiques face au courant dominant dans le protestantisme non évangélique et face, pourrait-on dire, à la ligne dominante dans le Conseil œcuménique des Églises. C'est tout spécialement en matière morale. Mais sur les questions relatives à la sexualité et à la famille, les évangéliques et les catholiques se trouvent au coude à coude, face à une dégénérescence, et aussi, pour un certain nombre de catholiques au moins, ceux qui suivent le pape, quant à l'affirmation de certaines vérités chrétiennes traditionnelles, majeures, sur la divinité du Christ, sa résurrection. Et du coup, vous avez de nouvelles formes de disposition des alliances qui sont étonnantes. Et il y a eu, là c'est toutes dernières années, un épisode assez retentissant aux États-Unis. Des catholiques et des évangéliques ont rédigé un document commun, prônant très clairement, malgré des différences clairement énoncées aussi, une collaboration assez étroite dans les années qui viennent. Alors ce document a été rédigé du côté évangélique par des laïcs éminents, en particulier Chuck Colson, vous avez peut-être entendu parler, vous avez vu certains de ses livres sur les comptoirs de librairie évangélique. Colson, qui était un assistant du président Nixon, puis il s'est converti en prison et qui fait un beau travail, il était de ce groupe. Mais il n'y avait pas de théologien, et on sent bien dans le document que c'est un peu maladroitement dit du point de vue évangélique. Le document a cependant été ensuite signé aussi par des gens qui ne l'avaient pas rédigé, dont le grand théologien, c'est peut-être le théologien évangélique le plus représentatif au monde aujourd'hui, James Packer. James Packer a signé ce document. Alors ça a créé beaucoup de remous, il a été violemment attaqué. Alors il a d'abord essayé de se défendre, et puis finalement, il a retiré sa signature. Mais c'est dire à quel point la chose a été embarrassée. Oui. Disant que finalement il avait eu tort, que ça n'avait pas été sage, que c'était mal compris, etc. Mais je pense que tout l'épisode nous montre bien qu'il y a une évolution sensible du côté des évangéliques qui concerne aussi le sujet de l'écuménisme et qu'en certains lieux au moins, il y a comme de nouvelles alliances qui se créent face à de nouveaux dangers. Alors je crois que du point de vue de l'écuménisme, à nous évangéliques en France, en cette fin de XXe siècle, il y a deux questions qu'il ne faut pas mélanger, bien sûr qui ne sont pas entièrement séparables, auxquelles il faut s'attaquer, celle de la relation avec les autres protestants et celle de la relation avec les catholiques. Alors, à ces égards, j'aurai demain certaines recommandations, enfin, je ne présenterai pas les choses juste comme ça, mais donc demain ce sera davantage une analyse des principes à mettre en œuvre. Mais en ce qui concerne l'histoire, j'espère vous avoir donné une vue assez globale et pas trop déformée. Monsieur Éric Patin.
J'aurais une question concernant les buts et les motivations de ceux qui ont été les acteurs ou les promoteurs.
promoteur de l'œcuménisme. Est-ce que c'était simplement pour éviter les ravages de guerre jugées fratricides ou épuisantes? Est-ce que c'était parce que l'union fait la force? Ou est-ce que c'était, dans des vues, je dirais, plus théologiques, soit un complexe de Babel, soit alors pour répondre ou essayer d'entrer dans cette prière du Christ à son Père pour que ceux qui viennent après moi soient un comme toi et moi nous sommes un?
En ce qui concerne les grands leaders à partir d'Édimbourg, l'Édimbourg 1910, donc dans cet essor du mouvement œcuménique qui aboutira à la fondation du Conseil œcuménique en 1948, je pense que c'est la deuxième motivation que tu as évoquée, qui est celle qui a été prédominante, c'est le désir d'aller dans le sens de la prière du Christ, très souvent citée, très très souvent. C'est le sentiment d'une vocation spirituelle, qu'il y a un scandale dans ces divisions. L'aspect utilitaire n'est pas absent, mais il est pris dans une vision spirituelle. C'est-à-dire que pour que le monde croit, et souvent aussi associé à ce rappel de Jean 17, mais avec la pensée que les divisions ont été une souillure à l'honneur du Christ, qu'elles ont rendu l'évangile impossible à croire, ils ont fait perdre toute crédibilité auprès des incroyants, et que c'est là une vocation qui est adressée, de réunir ce qui est honteusement divisé. Le Christ est-il divisé? C'est un scandale. Voilà ce qui me semble avoir été la motivation principale des grands leaders. J'ai mentionné John Mott comme président d'Édimbourg, mais bon, je pense que c'est aussi la motivation d'un Bögner. Bögner qui était un prédicateur très positif sur beaucoup de points. Je pense que le premier secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, Wissert Hofft, avait une vision aussi de ce type-là. Pour un homme un peu plus jeune, mais qui est mort prématurément, avec qui j'ai commencé mes études de troisième cycle, donc je l'ai bien connu, Jean Bosque, ce serait ça aussi. Il a des paroles émouvantes pour dire ce que signifie pour lui l'écuménisme. Il y a un article dont j'ai même quelques notes ici. Donc, je pense que c'était ce qui prédominait. Mais alors, en ce qui concerne la composante que l'archevêque Söderblom représentait, je pense que c'est pas tout à fait ça quand même, parce que pour la composante libérale, c'est davantage les controverses dogmatiques n'ont pas de sens. Elles ont divisé inutilement, mais ce sont des broutilles, c'est comme les querelles sur le sexe des anges entre théologiens de l'orthodoxie, alors que les Turcs assiégeaient Byzance et allaient la soumettre. C'est ridicule, un héritage de l'âge de la scolastique, un résidu de l'âge de la scolastique. Il faut agir pour le bien, pour que l'esprit de l'évangile, qui est un esprit de justice, de paix, de fraternité entre les hommes, soit établi. Voilà leur perspective, vous voyez, plutôt.
J'ai deux questions. Une première pour mon information personnelle, qui est la suivante. Quels sont aujourd'hui les points de rupture véritables entre le Concile des Trente et la situation aujourd'hui de la position des catholiques par rapport aux autres chrétiens aujourd'hui? Donc, c'est une première question, je pense que. Et puis la seconde, vous avez peut-être les éléments. À votre avis, quelle est aujourd'hui véritablement la stratégie de l'Église catholique? Par rapport, là vous avez présenté pour moi ce que j'appellerais des points tactiques de l'Église catholique, en particulier de Jean-Paul II, mais au-dessus de tout ça, quelle est la vraie stratégie?
Alors en ce qui concerne le premier point, bon, il faut se rappeler que chez les catholiques, il ne peut pas y avoir aveu d'un écart ou d'un renversement d'une position antérieurement établie par un concile. Il n'y a pas possibilité, sans inconséquence grave pour un catholique, de dire nous adoptons une position inverse de celle du concile de Trente. Ça peut être la réalité, qu'on repère assez clairement, dont on ne va pas pouvoir douter, mais ce ne sera pas avoué comme tel. Je crois qu'il faut toujours rappeler ça, c'est une des contraintes en quelque sorte avec lesquelles les catholiques travaillent. Ils doivent préserver, on pourrait dire, le mythe de l'infaillibilité et de l'irréformabilité des décisions conciliaires antérieures, comme de tout ce que les papes ont pu dire ex cathedra sur la foi et les mœurs, et du coup ils doivent ruser, ils doivent jouer parfois d'équivoques. Donc cela doit être rappelé. Ça n'empêche pas les positions de changer réellement, mais ce ne sera jamais dit en clair. C'est ce que Hans Küng a reproché. Hans Küng, il est allé lui avec ses gros sabots, il a dit avouons que l'Église peut se tromper. Et il a été réprouvé. On n'a pas été suivi sur ce point. Oui. Alors, sur la question précise, je pense qu'on peut dire que le Concile de Trente n'a pas édicté les choses avec une parfaite précision, c'est toujours soumis à interprétation. Il a été assez modéré, hein, le Concile lui-même de Trente. Il y avait des gens que l'esprit de la réforme avait un peu effleuré, mais il ne faut pas croire qu'il ait été extrême. Et les durcissements sont souvent venus de son application par la suite. Mais donc, dans la période post-tridentine, il a été très clair que le vieil adage hors de l'Église, pas de salut, était conçu comme excluant les protestants du salut, comme les vouant à la damnation. Et ça a été la manière dont les hérétiques ont été perçus. Alors, c'est au XIXe déjà une ça s'amorce, et au XXe siècle qu'on a un renversement de cette interprétation avant le Concile déjà. Il y a un prêtre du diocèse de Boston aux États-Unis qui, dans l'immédiat après-guerre, après Deuxième Guerre mondiale, donc je ne sais plus la date exacte, mais c'est vers 48-50, il s'appelait Finney, F-E-E-N-E-Y, qui a été excommunié par son archevêque, parce qu'il maintenait que les protestants ne pouvaient pas être sauvés. Parce qu'il s'en tenait à l'interprétation qui anciennement était pratiquement universelle. Mais il y avait déjà eu une telle évolution des esprits que l'entêtement de ce prêtre à dire autrement que son évêque-archevêque et que le magistère à cette époque a conduit à son excommunication pour indiscipline en quelque sorte. Oui. Donc il y a eu un renversement qui a en gros représenté ceci par rapport aux églises dans une première phase, et puis je dirais ensuite ce qui est arrivé à partir du Vatican II. Dans la première phase, on a dit il y a des vrais chrétiens partout, et chez les protestants aussi. Ils ne sont pas voués à la damnation, ils peuvent être sauvés. Mais ils appartiennent à l'Église alors, secrètement. Parfois on a dit à l'âme de l'Église sans appartenir à son corps. Ce sont des chrétiens qui appartiennent à l'Église, mais sans le savoir, sans le vouloir, d'en vouloir délibérer, mais parce qu'ils sont trompés par l'éducation qu'ils ont reçue. Alors bien sûr, ils souffrent de cette situation. Ils n'ont pas la plénitude, mais ils appartiennent vraiment à l'Église. Et normalement, dans cette optique, le baptême reçu dans une église protestante ne devrait pas être répété, considéré comme valide. On retrouve les positions d'une vieille controverse dans l'Antiquité aussi, à propos du baptême administré par des hérétiques. Pourtant, au début du siècle, ce n'était pas comme ça. Maritain a été rebaptisé, alors qu'il avait reçu un baptême protestant, de la part d'un libéral. Donc, voyez, vous avez eu ce changement avec ce stade-là. Ce sont des frères, mais qui appartiennent à l'Église, en quelque sorte de manière voilée, et leurs institutions, on évitait de les appeler Église. Oui. Alors, à partir de Vatican II, le mot d'Église est employé pour les autres institutions. Il leur est reconnu un certain coefficient d'ecclésialité. Oui. Elles sont Église. Alors, elles ne sont pas Église à 100%. Ces institutions n'ont pas la plénitude qui réside en la seule Église romaine. Mais à des degrés divers, elles participent à la réalité ecclésiale Et alors, tout le document, le décret sur l'écuménisme de Vatican II, reflète la logique du dégradé. C'est une question de plus et de moins. Les orthodoxes orientaux, eux, ils ont 97%. Il leur manque, c'est important, le pape. Mais autrement, ils en restent. Et ça, c'est, par la suite, ça a été concrétisé par la levée des anathèmes qui avait suivi le schisme de 1054 dont nous avons parlé. Maintenant, il n'y a plus d'anathèmes entre catholiques et orthodoxes. Mais tout n'est pas guéri quand même, ils n'ont pas les 100%. Et puis ensuite viennent les anglicans, qui ont 80%, ou même pas quand même, peut-être pas, parce qu'ils n'ont pas le vrai sacerdoce, ils n'ont pas la succession apostolique. Puis ensuite les luthériens avec évêques, et ainsi de suite. Et puis ça continue, après les protestants, et les protestants libéraux, vous aurez les juifs, puis les musulmans. Et c'est une logique du dégradé, une présence plus ou moins grande. Mais maintenant, il y a usage assez courant du terme église pour ces églises avec lesquelles il n'y a pas encore union. Alors, il n'y a pas intercommunion. Oui, c'était un point que je n'avais pas développé tout à l'heure. Le pape bloque ça. Il n'y a pas liberté de prendre la communion chez les protestants pour des catholiques. Mais il faut savoir que l'ordinaire du lieu, c'est-à-dire l'évêque local, peut, dans des circonstances qu'il juge, etc., l'autoriser quand même. C'est possible. Vous voyez, c'est voilà la situation présente pour autant que je la connaisse.
Sur un plan doctrinal et dans une perspective historique, est-ce que l'Église catholique annonce et affirme clairement la divinité de Jésus, son œuvre salvatrice, et le salut, la relation personnelle avec Dieu? Et est-ce qu'il y a eu une évolution depuis les premiers temps jusqu'à maintenant, et je dirais maintenant, dans un rapprochement avec ce que nous professons nous-mêmes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui tente à nous réunir, en fait?
La grande difficulté de cette question, c'est que le catholicisme est devenu tellement divers. Le pape essaie, comme je vous le dis, de restaurer la discipline, mais il y a beaucoup de mal, et il y a des divergences énormes entre courants du catholicisme contemporain. Donc, si l'on dit l'Église catholique par ses voies les plus officielles, et en particulier du Vatican, si on prend le catéchisme, qui a été publié par le Vatican, ou des délégués, moi j'ai donc eu une petite semaine d'entretien pour l'Alliance évangélique universelle avec des délégués du secrétariat pour l'unité au Vatican. Alors là, c'était des théologiens dans la ligne du pape. Alors je pense qu'on peut dire que c'est sans ambiguïté en ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. C'est en ce qui concerne la relation personnelle avec lui aussi, dit très fort et d'une manière, je crois, qu'on n'a pas à mettre en doute. Ils le diront, alors ils vivent à leur manière, ils conservent à leur manière. Mais en ce qui concerne la rédemption, tout dépend de ce que nous avons exactement en vue. Si il s'agit de dire que nous sommes sauvés par l'événement, l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ, par son sang sacrificiel, ce sera oui. Mais s'il s'agit de préciser que c'est alors parce qu'il a pris la peine de nos péchés, qu'il a subi à notre place le châtiment que nous avions mérité, alors là, on peut plus dire oui de manière si nette. Ça a été une position prêchée par de grands catholiques, Bossuet par exemple, mais aujourd'hui, je ne connais aucun théologien catholique important qui retienne la substitution pénale que nous croyons au cœur de l'Évangile. Et je crois que même la position assez conservatrice du pape de Ratzinger, de son personnel proche, n'inclut pas cette précision-là, pourtant à nos yeux si précieuse. Donc ça, c'est, quant à cette ligne la plus officielle, c'est un point au moins très flou et faible, je crois qu'on peut le dire. Alors, ça s'associe à cette affirmation dans la ligne officielle, un sacramentalisme encore très fort. Ils diront c'est par la foi, les sacrements n'ont pas de fruits sans la foi, ça, il faut, c'est de la doctrine catholique. Ils le diront bien, mais en même temps les sacrements jouent un rôle de canaux qui demeure très important. Et l'appartenance à ce grand corps et dans la soumission au pape, chose qui ne nous semble pas possible, et puis il y a aussi le lien avec la piété mariale qui est très proche, comme nous en avons parlé. Donc il y a une certaine proximité, plus grande qu'autrefois, une plus grande attention au message biblique, il y a une promotion de la lecture biblique qui est vraiment importante. Voilà pour la ligne officielle. Alors maintenant, si on prend celle des théologiens, je dirais la majorité des théologiens en France, elle affirmera la divinité de Jésus-Christ d'une façon beaucoup moins claire. Il y a tellement de modernisme que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment au sens des conciles et au sens de notre confession de foi, au sens de la Bible. Donc ça, c'est un point terriblement important, hélas. De même pour la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Le père Laurentin, qui lui est un conservateur, hein, le père Laurentin cite dans un de ses articles ce qu'il appelle la confidence, comme ça, ou des tours d'une conversation, d'un théologien très en vue, qui a fait une belle carrière, tout à fait honoré, qui lui aurait dit, ce qu'il y a d'embêtant avec la résurrection, c'est le tombeau vide. Parler de la résurrection, bien sûr, mais avoir un événement historique précis qui concerne le corps de Jésus déposé au tombeau, et donc un tombeau vide, ah non, alors là, c'est trop difficile à avaler pour un moderniste. Je pense, le plus grand nombre des théologiens représentatifs, il y a donc des faiblesses très fortes à cet endroit, il y a une hostilité très vive à la substitution pénale. Alors on dira bien que c'est par la mort de Jésus que nous sommes sauvés, mais ce sera très très vague. Et ce sera avec une note universaliste. Tous les hommes sont sauvés, simultanément. Donc, vous voyez, tout dépend. En revanche, j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler encore un peu demain, mais il y a, surtout touché par le renouveau charismatique, des catholiques extrêmement proches de nous, et en doctrine aussi. Je ne sais pas comment ils font pour rester dans l'Église catholique, mais là, beaucoup plus proche que la ligne officielle. Je n'ai pas été trop voir du côté de la substitution pénale, mais je ne serais même pas surpris qu'il y en ait quand même parmi eux qui soient au clair sur ce point. Donc, vous avez une diversité énorme.
Comme M. Pater a posé. Alors, est-ce qu'on peut s'unir avec des gens qui n'ont pas la même tendance que nous? Comme vous avez dit que les catholiques, justement le pape, ils font un culte à Marie. Alors, on ne peut pas s'unir parce que, et ça disant qu'ils se sont, par exemple, ils étaient dans l'erreur, ils ont enlevé les saints, tout ça, ils sont un peu proches de nous, mais ils adorent les idoles d'alliés quand même. Alors, il y a des choses qu'ils ont conservées.
Conservées, très divers. Je dirais par rapport aux images aussi, vous avez de tout maintenant, vraiment de tout, sous ce grand chapeau ou dans cette immense maison. Alors, je ne traite pas encore la question que vous posez aujourd'hui. Pouvons-nous nous unir? Ça, c'est ce que je vais essayer d'élucider demain matin.
J'ai dit que soit un, pour que soit un. Je crois que Dieu ne veut pas qu'on soit un avec des gens qui ont des tendances différentes que nous. C'est-à-dire les gens qui sont les mêmes tendances, qui croient à la divinité de Christ, qui croient. C'est vrai, on ne peut pas unir les gens qui sont contre nous. C'est ce que je veux dire.
On a un avis qui nous prépare, à l'étude de demain. Parce que c'est demain que nous devons aborder ce type de questions.
Concernant l'œcuménisme actuellement, ou
je ne sais pas si c'est une position sur l'œcuménisme, mais ce qu'on peut dire, c'est que les jésuites ont été en pointe dans la direction de l'ouverture pratiquement sur toutes les questions depuis une vingtaine d'années. Alors surtout en matière philosophique et politique, pour la théologie de la libération et jusqu'à l'action, comme en Amérique latine, et qu'ils ont eu maille à partir avec le pape, pour cette raison même. On a assisté ces 10 dernières années au paradoxe des soldats du pape, puisque c'est le surnom des jésuites, en grave tentation de désobéissance au pape, et qui a dû imposer un général selon son goût, mais avec pratiquement une révolte du côté des jésuites. Je ne me rappelle plus maintenant exactement les détails, mais je sais que c'est quelque chose de cet ordre qui s'est produit. Les jésuites, je crois qu'il est peut-être important pour nous de prendre conscience de leur type de spiritualité, ont choisi, ils constituent l'ordre religieux le plus audacieux. Ils ont choisi d'aller à la rencontre du monde, de s'y immerger. Ils ne deviennent pas des ermites, ou alors c'est une façon encore d'être dans le monde, d'attirer l'attention. Ils développent tous une sorte de deuxième carrière, et ils deviennent chirurgiens, professeurs d'université, des études extrêmement longues, de très haut niveau, parce qu'il s'agit d'influencer les leaders culturels. Et alors, ils y vont avec toute l'audace possible. Ils font de présence au monde et à l'élite sans réticence. Voyez. Alors facilement, ils s'intéressent aux dernières philosophies. Voyez. Et ils vont dans le sens souvent le plus audacieux. Je crois qu'il est jésuite. Je crois qu'il est jésuite. C'était un des livres qui m'a le plus alarmé de mes lectures de ces dernières années et aussi le plus impressionné par son brio. Sur la vérité chrétienne à l'âge du pluralisme religieux de aussi O'Leary apostrophe L-E-A-R-Y Y. Il enseigne à Tokyo, université à Tokyo. Il a écrit en français lui-même un livre de plus de 300 pages où il montre qu'il est parfaitement à l'aise avec tous les derniers philosophes de la gent parisienne. C'est éblouissant. Et ce qu'il prône, c'est une sorte de convergence avec le bouddhisme. Il prêche le Christ vide de la vacuité bouddhique. Mais c'est beaucoup plus subtil que je ne le dis en un résumé. C'est d'une subtilité. Je dirais ça, c'est une de ces prouesses jésuitiques caractéristiques. Vous voyez.
Répondre à la question qui t'a été posée sur les jésuites, tu nous parles des jésuites ou tu nous parles de l'Opus Dei?
Non, je parle des jésuites, oui.
Peux-tu nous dire de l'Opus Dei?
D'abord, je connais pas. je n'ai pas de source d'information proche. Tout ce que je peux savoir, c'est par la grande presse. Donc, ce que vous savez aussi, je n'ai pas. Des jésuites, j'en rencontre, mais l'Opus Dei, non, je ne connais pas. Je crois que c'est un mouvement qui est beaucoup plus laïque, beaucoup plus politisé, et alors, au contraire, à droite, alors que les jésuites se situent à gauche, selon le sens conventionnel de ces termes. Oui.
On a entendu ce qui a été dit concernant l'œcuménisme christianisant, mais qu'en est-il vis-à-vis des judaïsants? Est-ce qu'il y a des avancées de part et d'autre dans un cadre œcuménique plus large?
Moi, je crois quand même qu'on brouille beaucoup les choses si on emploie le même mot d'œcuménisme lorsqu'il s'agit des relations avec le judaïsme. Mais, certains le font sans doute, mais je crois qu'il vaut mieux éviter, au moins garder le terme pour les rapports entre ceux qui se disent chrétiens. Cela dit, on peut souligner que dans les cercles du Conseil œcuménique des Églises, il y a une tendance très très forte à dire qu'il ne faut surtout pas faire de prosélytisme à l'égard des juifs, que c'est honteux, que c'est inadmissible, etc. Essayer de convertir un juif, alors c'est vraiment un très grand péché. Et c'est la théologie des deux alliances, des deux peuples de Dieu, qui est admise par un certain nombre, un bon nombre maintenant, je pense une majorité, dans les cercles dirigeants au moins du Conseil œcuménique des Églises. L'idée qu'il y a une voie de salut propre à Israël, qui n'est pas celle de l'Église. Et donc ils sont sauvés en tant qu'Israélites. Le paradoxe de cette affaire, c'est qu'ils rejoignent une certaine aile ou frange des évangéliques. Que vous avez des dispensationalistes extrêmes qui disent presque ça aussi. Oui. Ça c'est un paradoxe de la situation. Mais comme nom de théologien allant dans ce sens, je l'ai un peu étudié, c'est un ancien théologien dit de la mort de Dieu, mais qui maintenant parle surtout de ce point, il y a Paul van Buren, qui, aux dernières nouvelles que j'avais eues, enseignait dans une faculté en Allemagne. Je crois que c'est Heidelberg, mais là je ne suis plus tout à fait sûr. Voilà ce que je trouve à dire.
Le rejet de Jésus.
Je pense qu'ils plaideront que le rejet de Jésus correspond à des blocages et des malentendus, et que justement si on parle, on verra qu'ils peuvent affirmer Jésus. Et je pense qu'en effet, un juif aujourd'hui, pour peu qu'il ait de la souplesse, et il y a des juifs qui se sont exprimés déjà dans ce sens, peut en dire autant de Jésus que Paul van Buren. Comme homme véritablement libre, prophète de la libération de l'humanité, de la fraternité, de la justice, des droits de la femme, je pense qu'effectivement, on peut être juif et avoir un tel Jésus. Quand il n'y a pas grand-chose de plus qui est attribué à Jésus, et c'est le cas dans la théologie d'un certain nombre, pas de tous les écuméniques, hein, surtout ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, il faut être juste, mais d'une frange, et d'une frange qui se fait entendre. Je pense quand même qu'au niveau des faits, je peux aussi rappeler qu'il y a une dualité sur laquelle je n'ai quand même pas beaucoup de renseignements, mais dont je sais qu'elle existe, entre l'appareil du Conseil œcuménique des Églises, c'est permanent, établi généralement en Suisse, dans la banlieue de Genève, et puis les Églises qui composent. Vous avez un personnel écuménique, des théologiens à l'Institut écuménique de Bossey, des apparatchiks, si vous voulez, des hauts fonctionnaires autour du secrétaire général, qui ont des options, qui préparent les grandes conférences, les congrès, qui orientent les textes, mais en même temps, ce n'est pas forcément la vie majoritaire dans les églises membres. Cette dualité est une dualité délicate, et moi je ne peux pas en dire plus. Je n'ai pas de véritable moyen d'information.
J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette association qu'on appelle la Fraternité d'Abraham, si vous en avez entendu parler.
Alors si je me rappelle bien, la Fraternité d'Abraham est un groupe de dialogue judéo-chrétien. Je ne sais pas si les musulmans sont inclus aussi. Alors là, je dirais que tout dépend comment qu'on soit le dialogue. Moi, j'ai été invité, je pense que c'était la Fraternité d'Abraham, en tout cas par un tel groupe. Et sans aucune censure de ce que j'avais à dire, j'ai parlé, je crois, selon l'écriture, en tout cas selon ma conviction, sans phare. On peut le faire sans être agressif, il faut simplement faire attention à la manière dont on dit, mais on peut le faire en étant net. Mais évidemment, je pense bien que dans certaines de leurs réunions, ils ont des orateurs qui s'expriment très différemment de ce que j'ai fait, et que la suggestion est facilement donnée que toutes ces religions se valent ou peuvent se reconnaître comme valables. Et là, c'est le piège de la notion de dialogue sur lequel je compte dire un mot demain. Des renseignements supplémentaires par rapport.
C'est-à-dire, pas beaucoup, mais j'étais étonné de recevoir régulièrement leur revue, justement, Fraternité d'Abraham, donc avec musulmans et chrétiens, donc il y a catholiques et protestants. Parfois, ils ont des articles très intéressants sur le pardon, des choses comme ça dans l'islam, le pardon selon les juifs, le pardon et selon les chrétiens, mais parfois c'est très intéressant.
Ah, d'accord.
La relation à l'écuménisme, c'est que c'est un petit peu le même genre d'attitude mentale et spirituelle qui se manifeste. Mais je pense qu'il n'y a pas un lien plus étroit. Bon, je pense que le temps est sans doute bien arrivé de conclure et de repasser la parole à l'ami qui va occuper les lieux. Oui, alors d'autant plus. C'est notre fraternité d'Abraham.